Chapitres 22 et 23, Josias. Chapitre 22, Josias et le second réveil. Arrivé dans ce chapitre, au second grand réveil qui eut lieu au dernier jour de Juda, nous allons y trouver ample matière à instruction pour nous-mêmes. Nous l'avons dit, à propos d'Ézéchias, les réveils de la fin sont caractérisés par la rupture avec les traditions, quelques consacrées par l'usage que soient plusieurs d'entre elles, et par le retour aux choses qui avaient été établies au commencement. Il va sans dire qu'en dehors de cette action spéciale et puissante du Saint-Esprit, on rencontre des temps où la piété individuelle prédomine et tranche sur l'idolâtrie courante comme chez Joas, Amatsia et Azaria. Ceux qui agissent avec Dieu peuvent exercer de ce fait, dans tous les temps, une action bénie autour d'eux. Mais une chose remarquable dans les voies de Dieu, c'est qu'à mesure que le mal augmente et entraîne le monde au jugement final, la vérité de Dieu brille d'un éclat plus vif et répand autour d'elle une influence plus générale pour réveiller les âmes. Sous Josias comme sous Ézéchias, il y a rupture résolue et complète avec le mal ancien, toléré ou établi en Juda. La fidélité de Josias sous ce rapport, telle qu'elle nous est rapportée dans les Rois, est tout à fait remarquable. Josias commence à régner étant petit garçon et, par conséquent, sous les soins de sa mère, Jedida, fille d'Adaïa de Botskat, qui était une femme de Juda. Josué 15, verset 39. Il marcha comme Ézéchias dans toute la voie de David son père et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Verset 2. La première chose qui nous soit dite ici de lui, c'est qu'il commença par prendre soin de la maison de l'Éternel pour réparer ses brèches, comptant sur la fidélité de ceux qui étaient chargés de ce travail. Note 1. L'ordre est différent dans les chroniques, où Josias commence par la purification du pays et s'occupe ensuite du temple. Ce même livre nous montre Ézéchias commençant par le temple et purifiant le pays ensuite. Ce dernier acte est dans le livre des Rois le premier d'Ézéchias. C'est là un des signes distinctifs d'un réveil au dernier temps. La maison de Dieu acquiert pour les croyants une importance toute nouvelle, et son état de ruine attire leur sollicitude. Il doit en être ainsi dans les jours que la chrétienté traverse actuellement. La voix des fidèles doit se faire entendre pour attirer l'attention du peuple de Dieu sur sa maison, sur l'assemblée du Dieu vivant, comme étant l'objet le plus cher au cœur de Christ. Il ne s'agit nullement de reconstruire à neuf le temple ruiné, mais d'en réparer les brèches, d'y apporter fidèlement les matériaux nécessaires, d'ajouter à cet édifice le bois de cèdre et les pierres de taille, agréables au Dieu qui a bâti la maison. De même, en ces temps de la fin, le chrétien, conscient de son appel, au lieu d'ajouter à la maison du bois, du foin, du chaume, y apportera ce qui convient à la maison de Dieu, des pierres vivantes taillées par le Saint-Esprit dans la carrière du monde, façonnées par le Maître et capables de faire partie, d'une manière définitive, de l'édifice de Dieu. Le réveil de nos temps a compris cela. Pour lui, l'assemblée de Dieu existe, quoique cette assemblée soit en ruine, tandis qu'il ne tient aucun compte des édifices appelés par les hommes leurs églises et entretenus par eux. Ce n'est pas à ces édifices que les fidèles témoins de Christ apporteront des matériaux, mais à l'Église du Dieu vivant, et chacun est responsable envers lui seul du travail qui lui a été confié. Qu'on ne compte pas avec eux, dit Josias, l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec fidélité. Verset 7. Ce zèle pour la maison de Dieu a un résultat immédiat et des plus importants. Le livre de la loi est retrouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 8. Si Josias n'avait pas eu à cœur la restauration du temple, le livre de la loi, qui y était conservé, de Chronique 34, verset 15, n'aurait pas été remis en lumière. C'est le caractère spécial du réveil de Josias. Ézéchias avait montré plus spécialement la confiance en l'Éternel, accompagnée, cela va sans dire, d'une réelle soumission à la parole de Dieu, dont Ésaïe le prophète était le porteur. Mais nous trouvons sous Josias comme une révélation toute nouvelle de la parole écrite, et, dans le cas particulier, des livres de Moïse. Dans ce réveil, les saintes écritures, négligées et comme oubliées sous le règne précédent, reprennent tout à coup leur importance. Ce fut la grande bénédiction attachée au réveil appelé la Réformation. La Bible, sortie de l'ombre par des voies providentielles et présentée à tous, brilla aussitôt du plus vif éclat. Cependant, l'on est douloureusement affecté de voir que la Réformation ne commença pas, comme Josias, par le zèle pour la maison de Dieu, mais sans doute l'importance de l'Assemblée de Christ était réservée pour un temps postérieur et n'avait pas encore été manifestée. Quand le zèle pour la maison et l'obéissance aux Écritures vont ensemble, ces dernières deviennent comme une révélation toute nouvelle. Les choses connues auparavant comme étant de Dieu ne perdent certes pas leur importance, mais une lumière surgit qui non seulement étonne et frappe comme totalement inconnue jusque-là, mais atteint aussi profondément la conscience. Et il arriva que, quand le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Verset 11. Est-il possible que la parole de Dieu ait pu être violée d'une telle manière par son peuple? Y a-t-il rien d'étonnant si sa ruine en est la conséquence? Et maintenant, qui nous interprétera cette parole? Comment consulter l'Éternel au sujet de ce que nous avons à faire, sachant que, selon cette parole, nous avons encouru son déplaisir? Le prophète seul, représentant de l'Esprit de Christ, 1 Pierre 1, verset 11, peut nous l'interpréter. Josias ne s'adresse pas pour cela à Chaphan, le scribe, ni même à Ilkija, le grand sacrificateur. Il veut se mettre directement en rapport avec la parole. Il y avait beaucoup de prophètes au temps de l'impie Manassé. 2 Rois 21, verset 10. Au temps de Josias, en ses jours de réveil, mais de profonde faiblesse, on trouve une prophétesse à Jérusalem. Non pas que les prophètes manquent en Juda. Chapitre 23, verset 2. Mais l'activité confiée à une femme caractérise le déclin, comme celle de Déborah dans le livre des Juges. Pareil à Déborah, Hulda, servante de l'Éternel, ne cherche pas à exercer un ministère public, comme les fausses prophétesses de nos jours. Elle emploie son don dans la sphère qui lui est assignée. Les serviteurs de Josias se rendent auprès d'elle, et elle habitait à Jérusalem, dans le second quartier de la ville. Verset 14. Ici, nous sommes loin d'un Ésaïe, dont le ministère embrassait toute la prophétie et dont la présence caractérisait le réveil d'Ézéchias. Mais l'Esprit de Christ parle par cette femme pour confirmer toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, verset 16, et en même temps pour rassurer Josias sur son propre avenir. Dieu avait égard à la profonde humiliation du roi. Parce que ton cœur a été sensible et que tu t'es humilié devant l'Éternel quand tu as entendu ce que j'ai prononcé contre ce lieu, et contre ses habitants, savoir qu'ils seraient livrés à la destruction et à la malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Verset 19. S'humilier était, de fait, la seule chose nécessaire. Elle caractérisait Josias et marque de tout temps le résidu fidèle au milieu du mal, au jour de la ruine de l'Église et parmi tous ceux qui professent connaître le nom de l'Éternel. Ézéchiel 9, verset 4. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elle. On peut reconnaître aujourd'hui le cœur du fidèle à l'humiliation qu'il ressent de cet état de choses. Celui de Josias y est sensible. Il déchire ses vêtements et pleure. Mais, verset 20, il devait être recueilli de devant le mal, comme dit Ésaïe, Ésaïe 57, verset 1.